Aujourd'hui, on vous amène en coulisses, dans les coulisses du cinéma, derrière les caméras. Vous avez cette zone sombre, pleine de décors, de tours en métal qui ressemblent à des morceaux de Tour Eiffel. Ces installations invisibles à l'écran, mais qui font tout le film. Dans cet épisode de C'est pas un métier, j'ai la joie de recevoir Anna Aude, chef machiniste, qui sera notre guide derrière les décors. Salut Anna.
Salut.
Merci beaucoup d'être avec nous. Bienvenue. Et bien sûr, mon acolyte Benoît Lachant, expert des métiers et de la formation. Salut Benoît.
Bonjour Guillaume.
Alors je sais, tu t'es plaint parce que d'habitude j'ai une petite relance sur le métier, une petite blague, mais là je savais pas quoi dire. Alors est-ce que c'est Benoît, est-ce que tu vas nous amener dans les coulisses de la formation et tout? Je trouvais ça un peu nul, donc pas de blague aujourd'hui, mais on fera avec. Pour commencer, Anna, est-ce que tu peux m'expliquer ton métier de manière simple, un peu comme si je ne connaissais absolument rien à la production et qu'on s'était rencontrés il y a 3 minutes?
Ok, du coup je suis chef machiniste aussi. Alors la machinerie, c'est un des trois pieds dans l'image, donc il y a la caméra, la machinerie et la lumière. En machinerie, on a trois choses du coup à gérer principalement. La machinerie, c'est-à-dire tout ce qui est mouvement de caméra dans l'image, les travelling, les grues, etc. Assister les lumières pour tout ce qui est accroche, qu'on dira compliqué, c'est-à-dire sur les toits, sur les plafonds, tout ça. Et assister la caméra, pareil, pour tout ce qui est accroche un peu compliqué. Si on veut mettre une caméra au-dessus de nous en train de nous filmer, et ben, ce sera la machinerie qui gérera ça, plus gérer toute la sécurité sur un plateau de cinéma.
Ok, et est-ce que tu peux nous décrire une journée type d'un chef machiniste ou d'un machiniste quand vous arrivez sur un... Quand on vous prépare un tournage?
C'est pas la même pour un chef machiniste et un machiniste. Le chef machiniste aura une période de préparation avec du coup les chefs de poste de l'équipe pour préparer le tournage en fait en amont avec le matériel, etc. Pour le machiniste, une journée type, c'est arriver sur un plateau. On a un temps d'install de quelques heures en général et après on lance le tournage et on prépare des scènes en décalé pour du coup toujours être en avance sur ce qu'on doit faire sur le plateau.
Donc tu nous parlais d'installation dite compliquée.
Ouais.
Donc c'est par exemple quand on va devoir mettre une lampe à un endroit inaccessible, dans un arbre en extérieur ou quoi. Qu'est-ce que vous allez utiliser comme outil concrètement? Ça se matérialise comment
Alors, tout dépend. On a énormément d'outils. Il y a deux écoles. Il y a quand on a, du coup, selon le budget aussi, des projets où il y a des outils qui sont faits pour. Par exemple, si je dois m'accrocher dans une maison sur un plafond, on utilise des autopôles ou des barres bouladou qui sont des barres un peu comme des... tringle à rideau, mais beaucoup plus solide, qui permet du coup d'accrocher des caméras, des projecteurs, etc. Et sinon, quand on a un peu moins de moyens, sur par exemple des clips, des courts-métrages, etc., on utilise juste des barres en acier et après on bidouille et c'est vraiment de la construction et de la réflexion.
Donc c'est des espèces de Lego que tu vas assembler le matin?
Exactement, ouais.
Et toi, ton objectif, c'est non seulement que ce soit pas dans le champ, que ce soit propre, que ce soit clean, mais aussi que ça tombe pas sur les gens?
Exactement, que ce soit sécure. Je suis responsable de la sécurité matérielle et humaine.
Donc il y a quand même un aspect, il y a un aspect bricolage, un
carrément.
Aspect démerde un petit peu.
Ouais, carrément.
Surtout quand de temps en temps, tu nous le disais, en fonction des budgets, tu vas devoir soit tu vas avoir accès à du matériel de grande,
ouais.
J'allais dire de grande qualité, mais, voilà, mais de temps en temps, il faut un peu bricoler.
Carrément.
Et donc toi, t'es chef?
Moi, je suis chef et je fais les deux.
Forcément.
Ça dépend des projets, ouais.
Mais aujourd'hui, donc quand t'es chef, c'est toi qui vas définir. Qu'est-ce qu'on va utiliser où et qui va dire à un tel, viens, accroche ça à tel endroit.
Exactement. Quand je suis chef, il y a le chef opérateur qui est le chef de l'image, du coup, qui va me dire, bah, moi, j'ai envie qu'on filme ça. Et c'est à moi de réfléchir à comment je peux créer une structure ou utiliser une structure existante pour faire le plan qu'il veut, que ce soit plan caméra ou plan lumière. Et après, effectivement, selon l'équipe que j'ai, je vais dire, OK, bah, on va utiliser ça, ça, ça. Et les autres aussi se chargent de l'install.
OK. Et au niveau des équipes, tu bosses toujours avec les mêmes personnes ou à chaque fois, tu as des équipes différentes, tu dois t'adapter?
Non, ouais. Le cinéma, c'est assez quelque chose, on va dire, de familial où les équipes bossent souvent avec les mêmes personnes. Moi, je sais qu'il y a des personnes avec qui je bosse tout le temps parce qu'il y a aussi un rapport de confiance, en fait. C'est en termes de sécurité. Moi, il faut que je puisse dire à la personne, installe-moi ça dans un arbre, mais que je sache qu'elle sache le faire aussi, que ce soit pour sa sécurité à elle ou pour la sécurité de n'importe qui sur le plateau. Mais ça m'arrive de bosser avec des gens que je connais pas et du coup de rencontrer des personnes qui sont très très souvent super. Donc c'est aussi quelque chose où on rencontre beaucoup beaucoup de monde sur le terrain.
Et alors comment on fait pour accrocher un truc dans un arbre par exemple pour un tournage? Faut monter à l'arbre?
Faut monter à l'arbre, on utilise des parisiennes qui sont des grandes échelles de chantier.
D'accord.
Ou on monte dessus. En général pour un arbre on utilisera une barre avec une sangle si on n'a pas trop de budget pour faire un truc un peu propre. Ça dépend ce qu'on veut mettre aussi dans l'arbre, si c'est une caméra... C'est un projecteur.
Et toi, tu montes aux arbres?
Ah, moi, j'adore escalader. Faut pas avoir le vertige quand on est machinot. On peut, c'est pas interdit, mais faut éviter, quoi. C'est le premier truc qu'on te dit en stage. C'est, t'as le vertige? Non, tu montes sur le toit direct, quoi.
Ok, bah ça déjà, c'est un bon indicateur parce qu'on s'adresse aussi à des gens qui sont en recherche d'orientation.
Okay.
Donc, premier truc, vous devez pas avoir le vertige.
Et justement, comment est-ce que tu en es arrivé là? Parce que c'est un métier qui est très peu connu.
Ouais, ben moi, j'étais pas du tout cinéphile. C'est aussi quelque chose, on n'est pas obligé d'être cinéphile pour faire du cinéma, je pense. Pour le coup, j'avais pas du tout envie de faire ça. Je suis vraiment arrivée dans le cinéma par hasard. C'est ma maman qui m'a dit tu sais pas quoi faire. Ça te dit, je t'inscris dans une école de cinoche. Je dis ok. Mais c'était vraiment par hasard. Et au final, j'ai découvert tous les métiers du cinéma sur un an et demi, puisque j'avais une formation en tronc commun au début. Et j'ai adoré le cinéma tout de suite, ce côté un peu magique des making-of, de comment créer un film. Et ensuite, du coup, j'ai découvert la machinerie. Pas grand-chose, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les écoles, il y a très peu de matos machinerie, malheureusement. La caméra, c'est très, très... Enfin, c'est beaucoup plus connu. Tout de suite, quand on parle de films et des gens qui travaillent dans le cinéma, on va dire « Ah, bah, t'es à la caméra ou à la réalisation. »
C'est un côté plus noble aussi. Hein, dans
c'est ça, exactement.
Gens.
C'est un peu le haut du panier. Et la machinerie, vu qu'en fait, on est au service de tout le monde, bah, on est un peu, je dirais, l'ombre de l'ombre. Ce qui fait que du coup, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, que moi, du coup, je ne connaissais pas et que j'ai découvert un peu plus tard, mais où je suis tombée amoureuse de la machinerie, quoi, très, très vite.
Et dans la machinerie, il y en a aussi dans le spectacle vivant. Est-ce
ouais.
que c'est la même formation? Est-ce que c'est les mêmes savoir-faire? Et est-ce que c'est les mêmes équipes? Tu parlais d'équipes dans lesquelles il faut avoir confiance.
Alors, dans la machinerie spectacle, je sais qu'il y a des formations de machinistes spectacle qui existent. Il y en a plusieurs à Paris, il me semble, alors qu'en machinerie cinéma... Ça commence tout juste, mais il n'y en a quand même pas énormément aujourd'hui. Ce n'est pas le même métier. C'est assez similaire. Il y a un aspect de sécurité aussi, mais le machiniste spectacle, il aura plus tendance à être responsable des mouvements de décor dans les spectacles, de la sécurité des danseurs, de la voltige des cascadeurs aussi et des acrobates. Plus sur cet aspect-là que sur un aspect... Enfin, il n'y a pas de caméra, donc il n'y a pas tout ce côté... matériel spécifique au cinéma dans le spectacle.
Est-ce que c'est un métier qui remonte à, j'imagine, des décennies?
Ouais.
Est-ce qu'il a évolué au niveau du matériel, au niveau des technologies? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as accès à des nouvelles choses que tes collègues ancêtres n'avaient pas? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'évolution du métier à travers le temps?
Ouais, bah, le cinéma, c'est quelque chose qui évolue très, très vite, ne serait-ce que passer de la pellicule au numérique, ce qui fait que aujourd'hui on a des structures beaucoup plus légères. À l'époque, porter une caméra c'était impossible parce que du coup le machiniste est aussi responsable de la caméra, c'est-à-dire qu'on passe la journée avec la caméra sur le dos. Et à l'époque, les caméras elles étaient extrêmement lourdes avec du coup toute la pellicule, etc. Donc aujourd'hui, on a beaucoup plus du matériel, je dirais plus léger. C'est toujours nous qui portons les choses les plus lourdes, hein, on va pas se mentir, mais le matos il évolue très vite et c'est aussi pour ça qu'il faut suivre un peu ce qui sort dans les boîtes de location. Pour savoir et pour toujours se maintenir au goût du jour. Après, on garde des petits trucs de l'ancien temps, je dirais. On est un peu superstitieux dans le cinéma. On dit que les machinistes, on était des marins avant. Et du coup, il y a tout un truc de, par exemple, le mot corde, on ne l'utilise surtout pas sur un plateau de cinéma. En machinerie, c'est quelque chose de... Si quelqu'un dit le mot corde, tous les machinistes vont se retourner en mode... Non, n'en fais pas ça, ça
c'est
porte malheur.
Grave.
C'est un truc de marin, quoi.
Vous dites un bout?
On dit un bout.
Un bout comme en marine, okay.
Exactement, on fait plein de nœuds. Parce qu'on utilise des nœuds aussi pour certaines structures. On aubane, comme sur les bateaux, en fait, pour quand il y a des structures en l'air et qu'il y a du vent.
Ça veut dire quoi, aubane?
Aubaner, c'est comme sur les bateaux, c'est qu'en fait, quand tu accroches un objet ou un bateau et qu'en fait, tu le mets en tension sur trois axes pour qu'en fait, s'il y a du vent, c'est comme un chapiteau, il soit maintenu et qu'il ne prenne pas le vent.
Ok, bah alors là, tu me régales un peu parce que moi, le jargon et les traditions, j'adore. Est-ce qu'il y en a d'autres?
Qu'est-ce qu'on ne dit pas? Ça, c'est un truc très, très connu. Après, alors pas dans le cinéma, mais je sais que les machinistes dans le spectacle, t'as pas le droit de siffler sur une scène. Ça porte malheur aussi. Ça, voilà, c'est un petit truc un peu plus.
C'est dommage parce que c'est pratique pour appeler quelqu'un.
Ouais, c'est ça. Et puis même, tu te balades comme ça, tu sifflotes, bon, c'est sympa.
Ah oui, même pour siffloter.
Ouais, non, à chaque fois, ça, apparemment, c'est pas très bien vu. Non, ça, je sais pas d'où ça vient, par contre.
Ok. Bon, bah trop bien. Non, mais c'est intéressant et c'est marrant de voir aussi qu'il y a cette histoire et cette,
ouais.
C'est quelque chose qui s'ancre. Tu disais que vous portez la caméra toute la journée, c'est du coup pour les installer et compagnie. Vous...
Exactement.
Pendant le tournage, vous faites quoi?
Ça dépend. Ça peut arriver qu'on cadre. Cadrer, du coup, ça veut dire qu'on effectue le plan. Notamment quand, bah, du coup, quand il y a des plans en mouvement, c'est-à-dire de travelling ou de grue, ça, c'est nous qui effectuons le mouvement. Donc, il y a quand même une part assez artistique selon bah, du coup, le plan qu'on fait. Et sinon, on s'occupe du clap, des machinistes. Ça, c'est un truc très français. Il n'y a que les Français où c'est les machinistes qui gèrent le clap. À l'étranger, c'est les assistants caméra. Et d'ailleurs, il y a aucun, je ne connais aucun machiniste qui aime clapper. C'est quelque chose où... tout le monde est fan du clap. Tout le monde est là en mode « Oh, je peux faire le clap. Oh, c'est trop stylé. Prends une photo et tout. » Parce que c'est le symbole du cinéma. Et nous, on déteste ça, quoi. C'est un truc qu'on est obligé de faire, mais qu'on n'aime pas trop.
Pourquoi vous aimez pas ?
Je sais pas. Je crois que c'est une coutume de machiniste de pas aimer clapper, quoi.
D'accord.
C'est une autre tradition.
C'est peut-être l'idée d'être devant la caméra. Donc, est-ce qu'on peut juste rapido expliquer à quoi sert le clap ? Parce que les gens qui nous écoutent le savent peut-être pas. C'est vrai qu'on voit toujours cet objet... qui est mythiquissime, ouais. Voilà, mais est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ça sert ?
Le clap, en fait, il permet de faire la post-synchro entre l'image et la personne qui prend le son. Et du coup, on fait une identification, on appelle ça une identif, où on note du coup la séquence, le plan et la prise. Et après, il y a plein d'infos extérieures, nuit, jour, le nom du chef-op, le nom du réalisateur, la date. Et tout ça, du coup, ça permet de le filmer avec la caméra, donc de donner les infos visuel et le son, on dit ce qui est écrit sur le clap au son, on fait 8 sur 5 premières, on clap et comme ça tout le monde a les infos et après ça peut se relier en post-production.
Parce que donc dans un tournage, pour que les gens comprennent, c'est pas la caméra qui prend le son évidemment, il y a un département son spécifique qui lance son rec à un moment, les caméras qui lancent leur rec à un autre moment, évidemment c'est pas parfaitement synchronisé.
Exactement.
Le clap permet d'avoir une information visuelle et auditive simultanée qui permet de dire ok là, on a synchronisé le son et l'image.
Exactement.
Quoi. Voilà, d'accord. Et de donner en plus toutes les infos. Donc, exactement, les machinaux n'aiment pas clapper, même si c'est eux qui clapent.
Exactement.
Peut-être l'idée d'être devant la caméra.
Je pense que c'est ça. Ouais, y a quelque chose où on n'aime pas trop. Et pourtant, il y a beaucoup de machinaux qui se retrouvent à faire des petits caméos et à se retrouver figurants pour des petits plans juste pour rigoler. Mais non, le clap, c'est quelque chose où c'est souvent le stagiaire qui clape. On lui donne, enfin, en mode, vas-y, va clapper. Puis le stagiaire, quand il arrive, il est très content de clapper, du coup. Puis ça ne dure pas très longtemps. Hein. Au bout de 10 claps, j'en ai marre de le faire. Parce que s'il y a des claps à chaque prise, il faut savoir que si on a, je sais pas, 10 plans dans la journée, on peut faire ces 10 plans 50 fois. Donc tu comptes le nombre de fois où tu clapes, c'est énorme. Il faut du coup toujours être attentif, noter les trucs, et tout, c'est horrible.
Est-ce qu'il y a un profil type de machinaux ?
Il faut être bricoleur, je dirais. Après, il y a les clichés des machinaux qui sont vrais.
Comme souvent,
finalement, on appelle ça un cliché, mais en fait, c'est vrai. Je dirais que les machinaux, ils sont reconnus quand même pour être les plus sympas. Et je dis pas ça parce que c'est mon métier, mais on est très à l'écoute des autres, puisqu'en fait, vu qu'on, dans notre métier, on est au service déjà des autres personnes qui travaillent, bah, humainement parlant, quand t'es machiniste, t'es obligé. Naturellement, tu vas aller vers les autres, tu vas les écouter, tu vas les aider, tu vas être là pour les autres. En plus, de ça, on est très, très drôle. Très souvent, le corps machinerie, tout le monde vient au cul de notre camion pour rigoler avec nous. Donc, il y a un truc où on est très famille, quoi.
Ok, il y a une bonne ambiance.
Ouais.
Et est-ce que sur le plateau, vous avez des ennemis ? Enfin, je rigole, hein, mais tu sais, il y a souvent des espèces de petits antagonismes comme ça.
Pas trop, parce que justement, pour le coup, nous, on est vraiment au service de tout le monde, quoi. Donc, pour avoir des ennemis, c'est un peu compliqué vu qu'on est obligé d'être là pour tout le monde. Je dirais que ça dépend. Franchement, je crois pas. Hein.
Non.
Les électros, c'est ceux qui sont le plus proches de nous, ceux qui s'occupent de la lumière, du coup. Parce que du coup, on est tellement souvent avec eux que du coup, bah, on est un peu en binôme avec eux. Assistant cam, un peu moins. Mais si, il y a toujours ce petit conflit avec les assistants cam de c'est leur caméra, mais c'est nous qui la portons. Donc, c'est en mode, on prend un peu leur bébé. Du coup, des fois, ça les stresse un peu.
D'accord.
Mais il n'y a pas trop de conflits, sinon.
Tu nous parlais de la sécurité en plateau.
Ouais.
C'était ta responsabilité. Comment est-ce que ça s'exprime ? Comment est-ce que ça se gère de manière générale ?
Alors, par exemple, toutes les structures qui sont mises en place, c'est à nous de faire en sorte qu'elles ne tombent pas. Parce que ça peut être des trucs très lourds, ça peut être des trucs qui sont déportés sur plusieurs mètres, ça peut être des trucs qui sont très hauts aussi.
Et qui coûtent très cher.
Et qui coûtent très cher. Et puis, il y a beaucoup de métal, en fait, dans ce qu'on utilise. Globalement, tout est en métal. Donc, pareil, ça peut être dangereux pour les êtres humains. Ce qui fait que du coup, on utilise plein d'outils pour sécuriser ça, notamment l'aubanage, ce que j'expliquais juste avant. Quand il y a du vent, quand on est dehors, en extérieur, qu'il pleut par exemple, on utilise cette technique-là. On utilise des gueuses, c'est des sacs de sable très lourdes qu'on met sur tous les pieds, ce qui permet du coup de sécuriser le matériel. Et sinon, on essaye de mettre des balles de tennis sur les pieds pour éviter que quelqu'un se prenne quelque chose au niveau du visage. Parce que les gens, il faut savoir que, faut imaginer que tout le monde est des... que ce sont que des enfants autour de nous. Et nous, on est un peu la babysitter. Et donc, on doit veiller à ce que tout le monde ne fasse pas n'importe quoi. Si, par exemple, il y a un électro qui va accrocher quelque chose sur une fenêtre, eux, c'est un peu, c'est vraiment des bébés. C'est le stade plus petit que l'enfant. Et il faut aller, du coup, des fois, tu peux voir un électro qui va accrocher un truc sur une fenêtre, mais qui va être, on est au 10e étage, la fenêtre est ouverte et il est comme ça dans le vide. Et lui, il se dit pas, ah, je peux peut-être mourir. Comme si c'est vraiment le côté babysitter qui garde plein d'enfants et il faut toujours veiller à ce que tout le monde soit en sécurité, que personne se mette en danger. Des fois, mais même nous, hein, quand on monte en hauteur, on peut ne pas forcément faire gaffe en se disant, bah vas-y, j'y vais, il faut aller vite et tout. Et c'est quelque chose auquel il faut faire très attention parce que malheureusement, on peut se blesser très très vite, quoi.
Est-ce que tu as une responsabilité légale ?
Non. En général, si jamais il arrivait vraiment un problème, même technique, par exemple, quelque chose qui tombe, ce sera la production, du coup, forcément, qui sera responsable. Bon, après, tu peux te faire blacklister, quoi, si vraiment tu fais trop de bêtises, mais, mais globalement, j'ai pas une responsabilité.
T'as pas une responsabilité légale, mais t'as une responsabilité morale sur
exactement,
le tournage.
Ouais.
Si y a une caméra qui tombe, évidemment, la faute de celui qui l'a accroché.
Ouais.
Sur ce genre d'installation, oui, mais par exemple, tu disais si quelqu'un se penche un peu trop, etc., on va le rattraper. Est-ce que c'est finalement vraiment votre responsabilité ou c'est finalement tellement dans votre métier, dans vos habitudes, que vous en faites votre responsabilité?
Je dirais un peu des deux quand même, parce que ça reste, c'est une case à cocher dans le métier, quoi. C'est où il faut être attentif et il faut être au service des autres et il faut protéger les autres de ne pas se blesser, de ne pas se faire mal. C'est les machinaux qui portent les choses les plus lourdes. Donc, dès qu'il y a des personnes, que ce soit l'équipe caméra ou lumière, qui ont des choses lourdes, en général, c'est les machinaux qui y vont pour porter les choses assez lourdes, parce qu'on est la team muscle, quoi. C'est comme ça qu'on nous appelle.
J'ai un peu une question, c'est un peu la question à la con qu'on doit
okay.
te poser souvent, mais vu tout ce que tu nous racontes, j'ai quand même envie d'en parler. Il y a beaucoup de femmes dans le milieu ?
De plus en plus, je dirais. Il y a quelques années, moi, quand j'ai commencé à travailler, parce que moi, je viens de Lyon, on était peut-être 4 machinistes de Lyon, ce qui n'est pas énorme. Il n'y en a pas beaucoup. Je sais que là, vraiment, c'est de plus en plus. Mais c'est vrai que ça, dans le cinéma, déjà, ça reste un milieu assez masculin. Mais pour ce qui est de la technique pure et dure, la machinerie, c'est vraiment le métier le plus masculin qui existe, quoi. Et du coup, c'est vrai que ça peut être compliqué au début.
C'est quoi le projet le plus complexe sur lequel tu as pu travailler ?
J'ai réfléchi à ça avant de venir, parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de projets. Je dirais que le projet le plus difficile que j'ai eu à faire, techniquement parlant et émotionnellement parlant, c'est un film qui n'est pas encore sorti, que j'ai tourné en Suisse, qui traite du suicide par assistance. Donc déjà, c'est un sujet assez lourd. Et où en fait, on a travaillé pendant plusieurs semaines avec une dame qui avait une date, du coup, pour mettre fin à ses jours, quoi. Et du coup, j'ai été logée en Suisse, donc j'ai vraiment vu cette dame pendant plusieurs semaines. J'ai mangé avec elle, j'ai bu avec elle. Et c'est aussi ça, hein, le cinéma, c'est vivre un peu avec des gens, des fois pendant certaines périodes plus ou moins longues, créer des liens et apprendre aussi beaucoup les uns des autres. Et c'était très difficile parce que le projet est magnifique. Je l'ai vu, il n'est pas encore sorti officiellement, mais moi j'ai vu des extraits. Il est trop beau et j'en suis extrêmement fière. C'est le projet dont je suis le plus fière. Mais... en fait, effectuer des mouvements fluides et beaux en se concentrant sur des dialogues qui sont difficiles émotionnellement parlant, c'est très compliqué parce qu'il ne faut pas se laisser submerger par ce qu'on filme. En même temps, il faut être conscient de ce qu'on fait pour effectuer le mouvement. Et du coup, c'était le projet le plus difficile que j'ai dû faire, mais aussi le projet que je préfère avoir fait. Donc,
transmettre une émotion sans te laisser submerger par l'émotion.
Exactement, ouais. C'est assez compliqué, mais c'est trop cool, quoi.
Tu peux nous dire le nom du projet, pour ceux qui auront envie de le regarder?
Alors, ça, pour l'instant, en tout cas, le titre provisoire, c'est Bert is dead, but it's okay.
Ok. Et vous êtes allé jusqu'à filmer ces derniers moments ou
Non. C'est pour le coup, le film, il est assez poétique. Ça traite du cinéma, ça traite de la mort aussi, mais et de aussi du deuil, de comment en fait le prendre ça bien. C'est pas du tout un film triste. Au contraire, c'est vraiment ce que je dirais, c'est typiquement un film heureux. C'est ça qui est génial. Et du coup, voilà.
Alors moi, j'ai l'impression que la question de Benoît, c'était peut-être à la base le plus complexe techniquement, mais
ouais.
Tu nous as fait une réponse tout autre et c'est trop cool.
Pour le coup,
mais
ouais.
Du coup, j'ai envie de te la reposer aussi sur le côté technique, comme ça fait partie aussi intégrante de ton métier.
Technique, ça dépend. Pour le coup, il y a plein de projets compliqués dans le sens où selon les décors et aussi la météo, ça peut être compliqué. Je sais que j'ai fait un film qui s'appelle Anima, où je suis partie tourner plusieurs semaines dans une forêt où on filmait des renards dans la forêt, voilà. Et c'était très physique parce qu'en fait, on portait un stead. C'est une structure où on met la caméra qui permet de faire des mouvements très fluides. C'est quelque chose d'assez lourd. Et où en fait, j'ai littéralement porté cette chose dans la forêt, sous la pluie, dans la boue, tous les jours, pendant plein de kilomètres. C'était très, très, très physique.
Un stead ?
Un stead, ouais.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est une structure où on pose la caméra dessus, ce qui permet au steadicammer, donc ce qui est un cadreur spécialisé, d'effectuer des mouvements très fluides, comme si la caméra volait.
Ok, est-ce que c'est les espèces de sacs à dos qu'on se met devant ?
Ouais.
Et qui...
Non, en gros, c'est comme un sac à dos, effectivement,
ouais.
Avec un bras robotisé un peu.
Qui sort de ton ventre ?
Qui sort de ton ventre,
comme
exactement.
Dans Alien.
Exactement, voilà.
Voilà.
Et avec, du coup... une structure pour mettre la caméra dessus, ce qui permet du coup après de cadrer comme si la caméra flottait.
Et toi, tu devais porter cette structure jusqu'au point de tournage.
Je porte pas le gilet. Le gilet, c'est le steadicammer qui l'a avec le bras qui lui sort du ventre, justement, comme dans Alien. Et moi, je porte en fait l'autre partie plus la caméra où du coup, pareil, ça pèse pas mal de kilos.
Ça, c'était très dur physiquement.
Ça a marché dans la boue toute la semaine sous la pluie avec la caméra, ouais. Mais c'était très cool, mais c'était très dur physiquement. Où là, bah, comme cette nuit par exemple, j'ai passé la semaine à tourner de nuit dans Paris en décembre, sous la pluie, dehors. C'était assez intense. C'est plus les intempéries, je dirais, et le fait de faire beaucoup d'heures physiquement, où là, c'est assez intense.
Et donc déjà, un grand merci d'être là, parce que tu as travaillé cette nuit.
Ouais.
Et il y a une grosse partie du travail dont on n'a pas parlé, qui s'appelle la démonte.
Ouais.
Et qui n'est pas facile, parce que c'est une fois que le film est terminé, qu'on a tourné.
C'est ça.
Donc, il y a souvent des retards, il y a souvent... Enfin, un tournage, ça ne se passe jamais exactement comme prévu. Il y a toujours quelques temps de retard. Et vous, vous êtes les derniers sur le plateau ?
Ouais, on est toujours les derniers sur le plateau. Les derniers, c'est les régisseurs, parce que du coup, c'est eux qui sont responsables des décors et qui ferment le décor. Mais le temps, ouais, de compter, là, bah, cette nuit, de recompter tout le matériel pour être sûr qu'on a tout avec nous, que tout est nettoyé, que tout est clean, de recharger le camion, ça prend un petit temps. En plus, on fait ça très souvent en musique, donc forcément, on perd un peu plus de temps.
On l'a dit tout à l'heure, effectivement, il y a peu de formation dans ces secteurs-là. Avant de parler justement un peu plus de la formation, est-ce que c'est un métier qui est en train de se développer ? On voit pas mal de séries, de films qui se tournent. Est-ce qu'il y a de plus en plus besoin de machinistes et de chefs mach ?
Ouais, c'est quelque chose dont on manque cruellement de machinistes aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail en machinerie aujourd'hui. Parce qu'en fait, vu que c'est un métier qui n'est pas très connu, il n'y a pas forcément beaucoup de gens qui font des études ou en tout cas qui connaissent et qui vont vers ce métier. Ce qui fait qu'on, vu qu'il y a de plus en plus de films, forcément, bah, il y a de plus en plus de besoins. Et vu qu'il y a de plus en plus de gros films aussi, ou de grosses séries, etc., bah, il y a beaucoup de techniciens sur ces projets-là. Donc, on manque de techniciens. Ouais.
Si on revient un peu plus, effectivement, sur la formation, il y a des formations au métier du spectacle, notamment niveau bac, généralement, ce qu'on appelle le DTMS avec l'option machinerie. Toi, tu nous as dit tout à l'heure que tu n'étais pas du tout passé par ça, tu es plutôt passé par des écoles, parce qu'il y a effectivement des écoles qui développent les métiers du cinéma au sens large et donc vont parler de ça. Mais tu n'as pas fait une formation spécifique là-dedans.
Non, moi, j'ai fait une école de cinéma qui était sur 3 ans, où en fait, on avait 1 an et demi où je faisais à peu près tous les métiers du cinéma, en passant de la réalisation à la post-production, etc. Et après, on passait à un examen qu'on appelait dominante, où on choisissait si on voulait aller plus dans la production, la post-production ou la technique. Moi, j'ai passé la technique, j'ai été prise. Et là où on touchait, du coup, pas que la machinerie, pour le coup, mais de la machinerie, de la caméra et de la lumière.
Et sur le terrain, justement, qu'est-ce qui est attendu ? Est-ce qu'on attend des gens qui ont le bon diplôme ou quelqu'un qui a un peu les bases et qui va être un peu débrouillard ? Enfin, c'est quel type de profil qu'on attend ?
Pour moi, le diplôme n'est pas forcément nécessaire parce que je connais des techniciens qui sont très, très bons, qui n'ont pas forcément fait d'école, qui sont arrivés comme ça sur un plateau de cinéma et qui ont appris. Je pense que la meilleure école, c'est le plateau de cinéma. Parce que pour moi, pour le coup, en tout cas, en termes de machinerie, j'ai énormément appris sur un plateau, ne serait-ce qu'avoir les bons réflexes quant à 90 personnes, être à sa place et ne pas gêner les autres aussi. Mais sinon, la formation, en fait, elle va juste te permettre d'être à l'aise avec ce milieu et d'apprendre les métiers qui existent. Et aussi, du coup, toi, te rendre compte de quel métier tu veux faire. Parce que c'est aussi compliqué de se dire, bah, je veux plus me diriger vers ça, s'il y a une méconnaissance sur le sujet. Mais le diplôme n'est pas obligatoire, je dirais. C'est plus, à la limite, peut-être faire des stages en boîte de location. C'est là où on loue du matériel cinéma. Où du coup, là, ça permettra d'être à l'aise avec le matériel et du coup, d'être plus à l'aise après par la suite sur un tournage.
D'accord, donc il y aurait effectivement ce parcours qui passerait par la pratique, notamment par les sociétés de location de matériel, et puis une plus classique qui passerait par les formations, sachant que là, je pense que aussi, outre le fait, ce que tu disais, d'être un peu à l'aise avec le métier, la compréhension de l'environnement, c'est aussi d'avoir les contacts pour pouvoir aller sur un plateau. Parce que tu dis, bon, il suffit d'aller sur un plateau, c'est un peu plus compliqué que ça.
Ouais, ben, l'accès, c'est vrai que le cinéma, entrer dans ce milieu-là, c'est quelque chose de compliqué. Parce que soit il faut avoir quelqu'un qu'on connaît, voilà, forcément de sa famille ou des amis, soit il faut être là au bon endroit au bon moment. Et c'est un effet boule de neige, c'est-à-dire que c'est se retrouver sur un tournage en tant que stagiaire, par exemple. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Rencontrer un chef ou même un technicien aléatoire avec qui ça va bien marcher en termes d'amitié même. Et cette personne va nous rappeler pour travailler sur d'autres projets et va nous présenter à d'autres personnes. Et ça fait effet boule de neige. Et après, c'est juste du réseautage, en fait, en quelque sorte. Donc, c'est vrai que c'est compliqué. Pour moi, c'est un peu trois choses. C'est du travail, forcément. C'est de la motivation, c'est-à-dire que si tu as envie, mais que à 80%, c'est pas assez. Il faut vraiment se dire, je ferai ça quoi qu'il arrive. Moi, j'étais en mode, c'est le meilleur métier qui existe de manière non objective. Je ferai ça, on pourrait me dire non 100 fois, que 100 fois je le ferai, quoi. Et c'est de la chance, du coup. Et du coup, chacun va un peu à son rythme. Moi, je sais que j'ai des amis qui sont sortis d'école en même temps que moi, qui aujourd'hui commencent tout juste à être dans le cinéma ou qui ont réussi à y entrer beaucoup plus rapidement. Chacun a son timing et chacun aussi a son parcours différent sur ce sujet.
Et la question qui fâche généralement sur ce genre de sujet, est-ce que ça gagne bien d'être machiniste ou de chef de machiniste?
Ouais, ça gagne bien. Ouais. C'est vrai qu'il y a le cliché de... Nous, on est souvent au statut de l'intermittence. Très souvent, les intermittents, c'est les troubadours, on dort sous des ponts ou des choses comme ça. C'est pas vrai. Ça, pour le coup, c'est un cliché qui n'est pas vrai. C'est compliqué parce qu'on ne travaille pas toute l'année. C'est-à-dire que nous, pour le régime d'intermittence, on est censé faire 507 heures par an, ce qui équivaut, dans un métier qu'on dira traditionnel, à 3-4 mois de travail en semaine de 35 heures. Donc, c'est-à-dire que techniquement, je pourrais travailler 3-4 mois dans l'année et être en vacances le reste de l'année. Effectivement, ce que je ne fais pas, puisque du coup, le cinéma, ce n'est pas quelque chose où on travaille du lundi au vendredi de 8h à 18h. On travaille le samedi, le dimanche, la nuit, les jours fériés, etc. Mais du coup, oui, ça gagne bien. Après, selon les projets, on n'a pas les mêmes salaires. C'est-à-dire qu'il y a des projets type court-métrage, par exemple, où on sera moins payé, mais après, le court-métrage, c'est plus justement pour faire du cinéma, pour être avec les copains, faire des projets qui nous tiennent plus à cœur personnellement. Après, il y a le clip au-dessus où on peut gagner un peu plus. Tout dépend de l'artiste, tout dépend de la production, du projet, si c'est un gros clip ou un petit clip, par exemple. Après, il y a tout ce qui est série, long métrage, où là, on gagne bien parce que forcément, on est sur des semaines à rallonge et on est globalement bien payé. Et le haut du pianiste, je dirais que c'est la publicité, où forcément, la pub engendre beaucoup d'argent. Sans parler de filmer, hein, mais c'est beaucoup d'argent.
C'est étonnant, la pub paye plus que le long métrage.
Bah, en fait, la pub, c'est sur du court terme. C'est-à-dire que pour une pub, on va faire quoi? 2 jours de tournage, 3 jours max, et on va prendre des salaires très, très, très conséquents. Ouais.
Alors, tu nous l'as dit, hein, c'est payé par jour, et on ne travaille pas tous les jours de l'année. Mais est-ce que tu peux quand même nous donner une fourchette? Tu dis bien payé, imaginé. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, une journée dans la pub, c'est à peu près tant, dans le cinéma, c'est à peu près tant?
Avec le calcul de l'intermittence, qui est un peu particulier aussi dans la manière dont c'est payé, je crois.
Ouais. Alors, c'est compliqué parce que dans le cinéma, c'est un métier où on négocie son salaire. Selon les productions, donc il y a forcément des conventions à respecter salariales, forcément. Mais selon les projets, des fois, il manque de moyens, donc ça peut se discuter. Je dirais que sur une pub, on peut gagner 300 euros de la journée, quoi. Sur une journée entre 8 et 10 heures.
Et ça, c'est le max, en gros?
Non.
Non,
non, ah, non, non, non. Moi, j'ai des amis qui se sont fait... c'est des sommes très, très grandes, qui se sont fait plus de 1006 la journée, quoi.
Qu'est-ce qui peut justifier ça à un moment? Est-ce que c'est l'urgence? Est-ce que c'est leur expérience?
Les heures sup. En fait, il faut savoir qu'il y a tout un calcul, mais là, ça devient technique, mais selon le nombre d'heures, on est payé, du coup, à la journée en cachet, donc... par exemple, 300 euros jour. Après, on a les heures sup. Donc, voilà. Si c'est des heures sup de nuit, elles sont majorées. Si on n'a pas fait la pause déj à telle heure, bah, du coup, ça veut dire qu'on est en continu. Si on est sur 2 jours et qu'on n'a pas 11 heures de repos entre les 2 jours, on est sur des anticipés, si on commence du coup plus tôt que ce qui était prévu. Et tout ça, en fait, c'est majoré à des pourcentages, ce qui fait que du coup, si vraiment tout le calcul est fait, bah, du coup, en fait, ton salaire, il peut augmenter si vraiment tu fais beaucoup d'heures.
Voilà. Ok, donc si je comprends bien, et je pense que c'est important de le dire, c'est un métier dans lequel on peut gagner bien sa vie, mais il faut énormément travailler. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur des horaires de bureau, on est parfois à ta pause, elle dégage, tes repos, ils dégagent, tu peux faire des heures et des heures et des heures, travailler de nuit. C'est aussi un métier difficile à ce titre-là, et donc c'est justifié que ce soit forcément rémunérateur derrière.
Bah, c'est rémunérateur derrière, surtout parce que vu que justement, on ne travaille pas toute l'année, en fait, par exemple, si l'été, on n'est pas sur des tournages, parce qu'en fait, il y a des tournages tout le temps, mais il y a des périodes creuses aussi dans le cinéma, dans la pub, etc. Si on ne travaille pas pendant, je ne sais pas, 3 mois, bah, il nous faut un salaire finalement. Donc, il faut qu'on ait des revenus aussi un peu plus conséquents sur les périodes dans lesquelles on travaille pour en fait s'équilibrer, nous, après, dans les revenus qu'on a. Mais oui, c'est un choix de vie aussi de faire du cinéma, de la machinerie notamment, surtout, mais du cinéma parce que c'est pas un métier stable. Dans le sens où, bah justement, comme on disait, on ne travaille pas du lundi au vendredi. On peut partir tourner à l'étranger ou même en France, mais dans une région qui n'est pas la nôtre pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et être loin de sa famille. On est logé là-bas très souvent, être loin de ses proches. Et du coup, c'est vrai que ça peut être un choix de vie compliqué de bouger tout le temps, de voyager tout le temps et de ne pas rester juste chez soi, aller au travail le lundi et le vendredi, c'est un week-end, quoi.
Est-ce qu'il t'est arrivé une anecdote que tu as envie de nous raconter sur un tournage quelque chose d'un peu marrant ou de marquant ?
Il y a un truc un peu rigolo sur le nom du matos qu'on utilise. On a une dolly, c'est quelque chose qui permet de faire des mouvements de caméra, qui s'appelle la panthère. Et une fois, on m'appelle pour tourner dans le nord de la France sur un film, et le chef me dit ok, bon, bah, du coup, faudra qu'on soit grave sérieux et tout machin, parce qu'il y aura une panthère. C'est une grosse machine quand même. Et moi, je me dis, OK, cool, il y aura une panthère, c'est cool, c'est une machine que j'aime bien utiliser, super. Il se trouve que, entre-temps, je me blesse, malheureusement, donc je ne peux pas faire le film. Du coup, j'envoie un ami à moi qui est machiniste en lui disant, bah, tiens, je te laisse le plan, il y aura une panthère et tout, machin, tu sais l'utiliser. Il me dit, OK. Il part, du coup, c'est en Normandie, il part en Normandie. Et il m'appelle et il me dit, mais il n'y a pas du tout de panthère, en fait, c'est l'animal qui a filmé, c'est pour ça que c'est compliqué. Et du coup, en fait, c'était une panthère à filmer. Voilà, et du coup. Complètement quiproquo de jargon.
Oui,
quoi.
Trop marrant. Et en plus, comme il y a eu une personne entre
et
vous
voilà,
et tout.
Voilà, c'est ça, un quiproquo complet. De lui, je lui dis, t'inquiète, hein, il y a pas grand-chose à faire et tout. Et en fait, il y a un animal assez important quand même sur le tournage. Donc, c'est des petits quiproquos comme ça, assez rigolos.
Ok, bah écoute, bien marrant.
On a déjà un petit peu parlé des qualités qu'il fallait avoir pour être machiniste. Est-ce que toi, tu as un dernier conseil pour ceux qui nous écoutent et qui disent, bah ouais, ça pourrait être un métier pour moi. Qu'est-ce que tu leur conseilles ?
Je pense que c'est vraiment se dire que si c'est quelque chose qui leur plaît, déjà d'essayer. C'est à partir du moment où ils se retrouveront sur un plateau de cinéma, que ce soit en tant que technicien ou en tant que stagiaire, qu'ils vont se rendre compte tout de suite si ça leur plaît ou pas. Et je dirais que c'est un peu un métier coup de foudre, dans le sens où tu le sais tout de suite si c'est quelque chose qui te plaît ou si c'est un milieu qui te va pas, en fait, tout simplement. Et quand tu sais que ça te plaît, tu vas tout faire pour te battre pour le faire. Et du coup, bah, si tu es motivé et que tu travailles, que tu te donnes les moyens, tu y arriveras quoi qu'il arrive.
Donc, le rythme de travail dont tu nous parles, c'est déjà assez impactant dans ta vie. Est-ce que tu as d'autres impacts dans ta vie de faire ce métier-là ?
Ouais, c'est vrai que la machinerie, ça me suit un peu partout. C'est des trucs un peu rigolos. Ça, c'est pas forcément tous les machinistes. Hein. Moi, c'est un peu parce que j'adore mon métier, donc je vis un peu de ça tout le temps. On utilise du gaffer, c'est des gros scotch qu'on a pour le cinéma, de couleurs, etc. Et c'est vrai que j'en ai toujours un dans mon sac. En permanence. Et c'est très pratique, ou même des outils au début, là je fais un peu moins, mais au début j'avais des clés Allen ou des outils dans mon sac au cas où ça me servirait dans la vie. Et je prends beaucoup le train. Et ça arrive dans le train, vous savez qu'il y a les petites lumières là pour lire qui sont bloquées, allumées et que tu peux pas éteindre. Et je trouve ça horrible. Et du coup, le fait d'avoir du gaffeur dans sa poche, tu mets du gaffeur sur l'ampoule, hop, t'as plus de lumière par exemple.
Trop bien.
Et c'est des trucs que j'utilise tout le temps, ou si, je sais pas, faut dépanner quelqu'un pour faire un truc. J'ai beaucoup de trucs là dans mon sac.
Il va falloir que tu nous le prouves. Hein.
J'en ai potentiellement dans mon sac là du gaffeur, hein, c'est sûr à 100%.
Est-ce qu'il y a dans votre métier quelque chose d'infaisable ou quelque chose que vous rêvez de faire, qui est un peu mythique ?
Infaisable, je pense pas. Tout dépend où est-ce qu'on tourne, les conditions, etc. On pose souvent la question de c'est quoi ton rêve ? T'as envie de travailler avec une grue immense ou de filmer dans tel ou tel décor ? Moi, au début, mon rêve, c'était de faire du cable cam. C'est tirer un câble entre deux arbres, par exemple, mettre une caméra dessus, et en fait, on lance la caméra dessus et elle part à 50 km/h sur un câble. Et je l'ai fait. C'était pas ouf. J'ai globalement été très déçue de cette structure parce que je l'idolâtrais de se dire waouh, on jette une caméra sur un fil, c'est incroyable. C'était pas incroyable, mais au moins je l'ai coché dans mes rêves de machiniste. Sinon, aujourd'hui, lundi, je travaille avec, je vais utiliser une Magnum qui est une grue sur laquelle au bout on met des gens. Et du coup, en fait, je fais voler des gens avec la grue. Et ça, j'ai très, très hâte de le faire.
Des gens, des comédiens ou des...
Des techniciens.
Des techniciens.
Des techniciens qui vont filmer, en fait, à plusieurs mètres de haut. Et moi, en fait, je vais les faire monter, bouger, cadrer avec eux, en fait, le plan.
Toi, tu vas contrôler la grue ?
Ouais.
Ok, cool.
Exactement.
Donc, tu vas faire voler quelqu'un.
Et ça, tu ne l'as jamais fait encore ?
Pas cette config-là, non. Donc, j'ai hâte de le faire lundi.
Anna, un immense merci d'avoir partagé avec nous ton métier. C'était vraiment passionnant. On a appris plein de trucs. Et donc, si les gens veulent travailler avec toi, c'est Anastasia Aude sur Internet.
Merci.
On peut te trouver. Voilà, merci beaucoup. Merci Benoît aussi d'avoir été avec nous. Chers auditeurs, si vous avez des questions sur les formations, les métiers ou l'orientation, vous connaissez le site, écrivez à Benoît sur c'estpasunmétier.fr. C'est pas un métier est un podcast EVL Prod, production Benoît Lachant, réalisation Benjamin Septem-Ours, direction de production Paloma Sterzati. Quant à moi, je compte sur vous pour prendre quelques secondes pour nous laisser 5 étoiles sur toutes vos plateformes de podcast. Un commentaire élogieux même, si vous avez 2 minutes, on les lit et on adore. Allez, ciao.